Béatrice Edouin, une vraie caricature de la Côte d'Azur. Fausse blonde, une tonne de maquillage, le verbe haut, un langage de poissonnière, une cagole, comme on dit là-bas. Et en amour, une tigresse, dominatrice, manipulatrice, emberlificoteuse, sans oublier bien sûr des amis voyous, un ancien mari braqueur et un petit studio secret dans lequel elle exerce des activités de massage et de relaxation. Contre rétribution, ça va de soi. Un jour, un de ses amants disparaît, un certain Claude Bichet, déménageur de son état. Elle lui avait mis le grappin dessus. L'a-t-elle fait assassiner? Cette enquête, une vraie salade niçoise.
Beau soleil, à quelques pas de Monaco. C'est dans cette belle maison avec piscine qu'habitent Claude Bichet et sa femme Maryse. À 44 ans, Claude est un homme comblé, marié, père de famille, patron d'une société de déménagement. Il a réussi. Tout va bien. Jusqu'à ce qu'en 1998, sa vie bascule. À l'occasion d'un déménagement, il rencontre une femme. Cette femme, c'est Béatrice Edouin. Elle ne va plus le lâcher. Car Béatrice est une de ces maîtresses qui rendent les hommes fous. Sensuelle, possessive, dominatrice, une tigresse.
Il était comme excité, impatient. Si elle n'était pas à côté de lui, il fallait absolument qu'il y aille, quoi. Il était comme aimanté à cette femme, hein. C'était envoûté, comme envoûté.
Il était fou d'elle, hein. Tout au début, après, mais... il était fou d'elle.
Et Claude a vite du mal à cacher cette liaison envahissante à sa femme.
Toutes les 5-10 minutes, ça téléphonait. Hein. Et elle rappelait. Elle lui téléphonait. Alors, il se cachait puisqu'il était chez nous. Il y avait Maryse qui était là. Il ne pouvait pas... Alors, c'était vraiment un jeu de cache-cache. C'était épouvantable. C'était épouvantable, ce moment-là.
Maryse comprend qu'elle est en train de perdre son mari.
Elle a tout essayé, mais par tous les moyens. Hein, par la magie, partout. Par tous les moyens, elle a essayé de le garder.
Sur les conseils d'une voyante, Maryse, la femme bafouée, imbibe de son sang un morceau de sucre avant de le dissoudre dans le café de son mari. Mais le filtre d'amour n'a pas beaucoup d'effet. Maryse ou Béatrice? Béatrice ou Maryse? Claude est perdu.
Un coup il partait, un coup il revenait, un coup il partait, un coup il revenait. Il faisait que ça, malheureusement.
Ben, je crois qu'il ne pouvait pas choisir. Que les deux ne lui laissaient pas la possibilité de choisir. Il ne pouvait pas être avec une, que l'autre, elle... Je pense que mon frère s'est trouvé coincé.
Et le vaudeville a commencé à mal tourner quand Claude est parti quelques jours en Auvergne avec sa femme. La maîtresse a vu rouge.
Elle est quand même allée jusqu'en Auvergne chez eux, leur casser la porte d'entrée à coups de pierre et de talons pour qu'ils sortent de là, de la maison, le matin. Et effectivement, il a pris sa valise et il est reparti avec Béatrice.
Béatrice a fini par gagner. Il a quitté sa femme et leur maison confortable pour s'installer avec elle à Beaulieu-sur-Mer. Un petit nid qui aurait pu être douillé si Béatrice n'avait pas été Béatrice.
Elle faisait que l'insulter. T'es qu'un con, tu vaux rien, t'es rien, enfin, que des insultes.
Il en avait marre. Bon, je vous parle cru, mais il me parlait comme ça. Bruno, tu sais, elle me fait chier, j'en ai marre, elle est toujours en train de me harceler et tout.
Il voulait la quitter, elle voulait pas. Après, elle voulait le quitter. Mais quand elle voulait le quitter, ça lui plaisait quand même qu'il soit derrière elle à essayer de revenir. Elle aimait que les hommes quand même viennent, lui demandent pardon, s'excusent. De toute façon, une relation calme, ça ne lui convient pas, elle provoque.
Et un jour, Claude craque.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont disputés et Claude lui a renvoyé une chaussure à haut talon en plein visage. Et elle aurait eu une balafre ici. Et elle lui aurait toujours fait la remarque de dire « Toi, un jour, tu verras jamais le soleil ».
C'est dans ce contexte un peu tendu, très tendu même, qu'un jour, sans crier gare, Claude disparaît.
12 avril 2001. Ça fait 2 jours que Bruno n'a plus aucune nouvelle de son patron, Claude Bichet.
Et on n'arrivait pas à le joindre, c'est ça le problème. C'est que ça ne répondait pas à son téléphone. Non, je dis, c'est quand même bizarre.
Bruno Baliana sait que son patron a une maîtresse. Il connaît très bien Béatrice. Alors il l'appelle. Mais elle non plus n'a pas de nouvelles. Reste sa femme. Béatrice propose à Bruno d'aller la voir ensemble.
Et elle m'a dit, si tu veux, je peux venir te chercher devant l'hôtel de ville. Moi, personnellement, je pensais qu'il était revenu avec sa femme, qu'il s'était remise avec. Honnêtement, c'est ce que je pensais.
L'employé et la maîtresse prennent donc la route. En chemin, Béatrice Edouin explique à Bruno qu'elle n'a pas revu Claude depuis 2 jours. Depuis le 10 avril, elle a déjeuné avec lui et il est reparti seul.
Elle me dit comme ça que je sais qu'il avait rendez-vous à 15h à Nice et qu'il appréhendait ce rendez-vous.
Mais elle n'en sait pas plus. Quelques minutes plus tard, Béatrice et Bruno arrivent à Peille, sur les hauteurs de Monaco. C'est dans ce village que Maryse Bichet s'est installée quand Claude l'a quittée pour Béatrice. Et elle n'a pas l'intention d'y accueillir sa rivale. Bruno le comprend très vite.
Maryse, elle nous voit arriver. Et elle descend. Et je fais, qu'est-ce qui est arrivé, Bruno? Qu'est-ce qui est arrivé? Béatrice dit, Claude y a disparu. Et Maryse, tout de suite, a dit, c'est toi qui l'as fait tuer.
C'est toi qui l'as fait tuer. Maryse ne peut pas souffrir Béatrice. Alors s'il est arrivé malheur à Claude, forcément, Béatrice y est pour quelque chose.
Maryse était en pleurs, vraiment elle était en pleurs. Et alors elle était, mais non, on va le retrouver, tout. Et c'est de là que Maryse, donc, sa femme, m'a dit, Bruno, tu viens à la maison, toi tu restes là, tu rentres pas chez moi, qu'elle lui dit.
Bruno et Maryse alertent alors toute la famille de Claude, et notamment sa sœur, qui vit en Suisse.
Elle me téléphone, elle me dit, il est chez toi? J'ai dit, pourquoi qu'il serait chez moi? Il est en plein travail, il ne veut pas être chez moi. Alors elle était un peu fâchée. Alors j'ai dit, je descends.
Le jour même, Maryse se rend au commissariat de Beausoleil pour signaler la disparition de son mari. La police diffuse une photo et le signalement de Claude Bichet. Mais les jours passent et Claude ne réapparaît pas. Du côté de sa société de déménagement, les policiers ne trouvent rien de suspect. Claude Bichet est aussi conseiller municipal à Beausoleil, mais de ce côté-là non plus, pas la moindre piste. Alors Claude aurait-il voulu prendre le large? Il avait décidé de rompre avec Béatrice. Et il s'était loué un studio. Les policiers le visitent.
On voit que la vaisselle n'est pas encore effectuée. Du linge sale se retrouve dans la machine à laver. Le magazine télé donc, est ouvert à la page du 9 avril. Tout ça, donc, on a pensé qu'on n'est pas en présence d'un départ organisé d'une fugue. À l'évidence, M. Bichet comptait rentrer le soir même.
Au total, les policiers trouvent ça inquiétant.
Pierre Bichet, vous êtes le fils unique de Claude Bichet, né d'un premier mariage. Comment est-ce que vous vous apercevez que votre père a disparu?
Alors je m'aperçois de sa disparition quand ma tante de Suisse me contacte et me dit, voilà Pierre, regarde que j'ai ton père qui m'appelle plus, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, est-ce que tu peux voir de ton côté, toi qui es proche? Alors moi je m'affole pas de suite parce que bon, je n'ai pas à m'affoler du moment où je veux dire, moi j'ai quelques contacts avec mon père moins souvent que ma tante, mais j'ai quelques contacts quand même. Je me suis dit, bon, je vais quand même prendre un peu le devant en contactant un ami gendarme qui me dit, écoute Pierre, à ce niveau-là, il n'y a qu'une chose, c'est porter plainte pour disparition.
Quel genre d'homme était votre père ?
Mon père était très jovial, travailleur. Il aimait faire la fête, je veux dire, c'était un bon père.
Vous l'avez vu très peu de temps avant sa disparition. C'est oui. Un peu un hasard, ça.
Oui, je le vois le dimanche 8 avril. Il monte, il était très, très content parce que j'étais avec mon fils. C'était le seul petit-fils qu'il avait. Et il n'avait pas l'air de s'inquiéter plus que ça. Il était content de nous voir.
Au moment où il disparaît, vous avez des pistes. Vous pensez à une fugue, vous pensez à un suicide, vous pensez tout de suite à un meurtre.
Non, moi, je ne m'inquiète pas tout de suite. Mais ma femme reçoit en fait un coup de téléphone de Béatrice Edouard. Et c'est là qu'elle nous met un peu sur une piste en disant « Voilà, est-ce que vous avez un contact avec Claude ? Je ne l'ai plus vu. » Ma femme lui répond « Tu sais qu'on ne l'a plus vu, nous non plus. » Et c'est là qu'elle lui répond « Mais on ne tue pas un gars de 100 kilos, on ne le jette pas dans un trou comme ça. »
La famille Bichet croit au pire des scénarios. Alors, elle porte plainte contre X pour assassinat. Le procureur saisit alors le commissariat de Menton. Une enquête est ouverte.
Les policiers s'intéressent d'abord à l'emploi du temps de Claude. Le 10 avril, le jour de sa disparition, il avait soi-disant rendez-vous à Nice, à 15h.
Il n'a pas de rendez-vous avec des clients, sur Nice. Il n'a pas eu de contact sur des numéros qui pourraient nous intéresser sur Nice.
D'autant que la dernière fois qu'on trouve trace de son portable, il accroche une antenne relais dans la montagne, au-dessus de Menton. Et c'est à 50 km de Nice.
Pour nous, Claude Bichet est resté sur le secteur mentonnais, voire sur les hauteurs, où son téléphone va disparaître.
Claude n'aurait jamais eu de rendez-vous à Nice ce 10 avril. Béatrice, la maîtresse, a-t-elle voulu lancer tout le monde sur une fausse piste ? Elle que tous les proches de Claude désignent du doigt.
Tout est confirmé d'un bloc, d'une façon cohérente, que Béatrice Edouin mène une vie d'enfer à Claude Bichet et que son emprise est telle qu'elle est capable, peut-être parce que Claude Bichet a décidé d'en finir avec elle, de l'avoir tuée.
Ça bardait entre Béatrice et Claude. Mais de là à ce que ces deux-là s'entretuent, il y a un pas. Les policiers hésitent à le franchir quand ils apprennent que Claude Bichet a fait l'objet d'une bien étrange agression 2 mois avant sa disparition.
C'était en février 2001. Béatrice et son amant rentraient avec une copine d'une soirée bien arrosée.
Claude, ils l'ont mis derrière, puisqu'il n'était pas bien. Il commence à s'assoupir. Et donc, à un moment, ils ont vu une personne à vers 2h ou 3h du matin, je ne sais pas exactement, qui faisait du stop. Quand il a entendu la voiture s'arrêter, Claude s'est relevé et a dit « Ah ben, j'ai envie d'aller faire un petit besoin ».
C'est là que l'autostoppeur a attaqué Claude, par derrière, avec une barre de fer.
Et costaud comme il est, il faisait quand même pas loin d'1m87, 1m88, Claude. Il s'est retourné, il a attrapé le gars, il lui en a mis 2 en pleine figure. Le gars, il est tombé dans le bas du ravin.
Pierre Bichet, votre père, vous avait-il parlé de cette agression qui est survenue 2 mois et demi avant sa disparition ?
Alors non, je n'ai pas su de suite l'agression qu'il avait eue. J'ai juste eu un passage quand on était au restaurant avec Béatrice Edouin et ma femme, où là, il lui dit en face, sur le moment d'énervement, « Je sais que c'est toi qui as fait ça, tu ne l'emporteras pas au paradis. »
Et là, vous ne savez pas de quoi il s'agit.
Alors, je ne sais pas de quoi il parle à ce moment-là. Et c'est là qu'elle lui répond, « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ne dis pas n'importe quoi. » Voilà. Et puis lui, il était sûr de lui, que je veux dire, sur ce coup-là. Et c'est là que j'ai su plus tard qu'il avait été agressé par un autostoppeur, qu'il avait pris un coup d'OQTR, qu'il avait fait des jours d'hôpitaux que j'étais pas au courant non plus.
Et il avait porté plainte ?
Moi, la famille me dit j'ai pas de preuve que c'est elle, mais je sais que c'est elle. Alors je veux dire, s'il a pas de preuve, il peut pas aller porter une plainte.
un traquenard monté par Béatrice. Franchement, l'accusation est gratuite. Il n'y a aucune preuve. Mais dans la tête des policiers, l'idée fait son chemin. Et très vite, la maîtresse devient le suspect numéro un. D'autant que depuis que Claude a disparu, elle se conduit bizarrement.
Les policiers épluchent les factures téléphoniques. Ils sont stupéfaits. Malgré leur rupture, Claude et Béatrice s'appelaient constamment, jusqu'à 250 fois par jour. Une relation délirante qui a cessé curieusement au lendemain de la disparition.
Elle le harcelait au téléphone, et du jour au lendemain, plus aucun appel. Comme si Béatrice Edouin sait très bien qu'il ne sert à rien d'appeler, puisque de toute façon, personne ne lui répondra.
À ce stade, les policiers n'ont toujours pas entendu Béatrice. Et ils se gardent bien de le faire pour ne pas lui mettre la puce à l'oreille.
On s'est dit, si elle est impliquée, la faire venir pour des banalités ne nous avancera à rien. On n'a pas suffisamment de matière immédiatement pour être certain de la confondre ou de l'amener à des aveux. Donc on va se désintéresser d'elle. On ne va pas la faire venir, voir sa réaction aussi, voir si elle prend contact.
Mais Béatrice ne s'y risque pas. Elle préfère appeler la famille de Claude, et notamment sa sœur Yvonne. Loin de se douter qu'Yvonne se méfie d'elle et enregistre toutes les conversations.
Hello.
Oui, bonsoir Yvonne.
Bonsoir.
Je suppose que vous n'avez pas de nouvelles non plus.
Non.
Et voilà qu'un mois après la disparition de Claude, Béatrice se met à insinuer qu'il avait de gros problèmes d'argent.
Je sentais mal, alors je me suis coupé un problème, dis-le-moi, oui, je te donne 50 000 francs.
Mais ces 50 000 francs, il me les aurait demandé à moi s'il avait eu besoin.
Ah oui, ben je ne sais pas, il n'a peut-être pas osé.
Vous n'avez aucune idée pour savoir à qui il voulait les donner?
Ah non.
Claude lui aurait demandé de l'argent, donc il avait besoin d'argent. Donc il aurait demandé à elle, pas à ses proches. C'est assez bizarre, cette histoire.
Elle devait lui payer un sandwich, parce qu'il avait même pas pour acheter un sandwich, et puis tout ça. Alors j'ai trouvé ça un peu gros. Et puis qu'il jouait. Il jouait beaucoup, mon frère. Et mon frère ne jouait pas.
Béatrice décrit ensuite un homme déprimé, malade, depuis leur rupture.
Et c'est depuis ma séparation, tout le monde le dit, qu'il a complètement été perturbé. Il me demandait tout le temps ce que je faisais, où j'étais. Il faisait des scènes maladives. Hein. Il était très proche de moi, très très amoureux. Bien qu'il veut démontrer le contraire, je sais pas. Il était tout le temps en train de mentir, je sais pas.
Il a harcelé ma tante de ça.
Ah. Il avait un problème intérieur, je sais pas. Mais moi, il permettait des choses qu'il ne voulait pas faire. Hein.
Et elle le dénigrait de la façon de parler de lui, voilà. Sans dire les mots, mais elle avait l'impression qu'elle... C'était vraiment pas bien, c'était vraiment... Elle essayait de savoir ce que nous, on savait. Elle nous tirait le verre du nez, comme on dit, hein, c'est ça. Ouais.
Qu'est-ce qu'il vous a dit à vous? Il avait l'air... Qu'est-ce qu'il
vous disait? Vous savez ce qu'il me disait, on a parlé plutôt privé, nos choses privées. Hein.
Oui.
Mais il était très très bien, hein, mardi, très très bien.
Vous pouvez pas me éclairer un peu à votre tour?
Bon, mais écoutez, moi j'ai...
C'est un problème, je...
Oui, bon, mais non, c'est... De toute façon, ça en sortait, mais de toute façon, à rien, que vous n'êtes plus là. On doit le rechercher et on verra. Hein.
Oui,
hein?
Quand même, éclairez-moi à
votre
tour.
Mais écoutez, moi, j'ai rien à dire, en principe. Hein.
Elle vient exclusivement aux informations. Elle veut savoir l'état d'esprit de la famille et elle veut savoir si on envisage l'issue d'un homicide ou d'une disparition crapuleuse.
Pour les policiers... Béatrice ment, tente de manipuler la famille, de brouiller les pistes. Elle cache quelque chose, reste à la coincée.
En juillet 2001, 3 mois et demi après la disparition de Claude Bichet, les policiers placent Béatrice Edouin sur écoute. Toutes ses lignes, car la dame répond à plusieurs numéros.
À l'époque, Béatrice Edouin a 47 ans. Elle est veuve depuis l'âge de 25 ans. Après la mort de son mari, elle a refait sa vie avec un ancien braqueur dont elle a eu 2 enfants. Mais en 98, après 10 ans de vie commune, elle l'a quitté. Elle a déménagé et c'est là qu'elle a rencontré le déménageur Claude Bichet. Elle avait 44 ans. Et grâce aux écoutes, les policiers découvrent que 3 mois seulement après la disparition de Claude, Béatrice a déjà tourné la page.
Elle vit avec un monsieur qui est concierge à Monaco, un homme tout à fait sympathique, avec une éducation qui est vraiment relevée sur les écoutes, et on s'aperçoit rapidement que Béatrice Hédouin ment en permanence.
Elle ment à son nouvel amant, elle ment à ses proches, elle ressemble trait pour trait à la femme versatile et capricieuse qu'on leur a dépeinte.
Béatrice Hédouin, je dirais, peut passer du soleil à l'orage de manière extrêmement rapide. Elle peut être complètement changeante, elle peut être très gentille avec quelqu'un au téléphone et dans la même seconde exploser complètement pour des raisons qui, à la limite, peuvent être futiles.
On est dans des situations d'hystérie complète. On passe du bisounours à une vulgarité outrancière. C'est un personnage absolument impressionnant, capable de faire avaler à n'importe qui n'importe quoi.
Béatrice Hédouin ne travaille pas. Officiellement, elle vit grâce aux allocations familiales.
On apprend qu'elle fait énormément d'achats, effectivement, pour du mobilier, pour des rideaux, n'importe quelle chose qui lui passe par la tête et qui lui plaît. Béatrice va l'acheter. On apprend qu'a priori, son compte bancaire ne lui sert pas à grand-chose puisqu'elle paye tout en liquide.
Les policiers vont comprendre. Le jour où Béatrice téléphone à un journal régional pour passer des petites annonces. L'OVA propose des massages en tout genre.
Masseuse, on n'a pas de qualification particulière la concernant là-dessus. On n'a pas d'infos sur le fait qu'elle puisse avoir des diplômes particuliers pour faire quoi que ce soit. Mais l'annonce en elle-même, telle qu'elle est libellée dans les pages dans lesquelles elle passe, ça fait bien effectivement un pseudo call girl.
Béatrice loue un studio sur la promenade des Anglais à Nice. C'est là qu'elle dispense ses séances de massage et de relaxation.
Il y a quelques communications avec des hommes qui sont très clairs. Hein, très clairs, où on parlera de préservatifs, comme la dernière fois.
On connaît son tarif et on sait ce qu'elle compte faire. Donc il n'y a aucune ambiguïté dans les écoutes.
Quelque part, on tombe pas du placard, on va dire, avec mes collègues. On se dit, tiens, ça peut cadrer avec elle. Hein. Elle est très fière d'elle, encore une fois, très attachée à sa beauté. Donc, on la voit pas, effectivement, être la prostituée sur un coin de trottoir, mais organiser ou avoir organisé des rencontres avec des hommes qui auraient de l'argent, qui seraient prêts à payer pour passer un moment avec elle. On se dit que c'est possible et que, a priori, c'est le cas.
Béatrice Hédouin ment. Béatrice Hédouin menace. Béatrice Hédouin aime l'argent et pour ça, elle se prostitue. Mais ça ne fait pas d'elle une meurtrière. L'enquête piétine jusqu'au jour où Bruno Baliana revient au commissariat. Bruno Baliana, c'est l'employé et l'ami de Claude, celui qui s'était inquiété de sa disparition. Il n'a pas tout dit et il vient soulager sa conscience.
Le 28 novembre 2001, 7 mois après la disparition de Claude Bichet, Bruno Baliana pousse la porte du commissariat. Béatrice lui a fait des confidences ahurissantes et il ne peut plus garder ça pour lui. Alors il raconte aux policiers, il y a 3 mois, en juillet, il a croisé Béatrice Hédouin dans une boîte de nuit de Monaco.
Moi, j'ai dit, t'as des nouvelles de Claude ? Eh non, mais il faut que je te parle, prends le bras, il faut que je te parle, de toute façon, Claude, il est mort. Textuellement. Je dis, attends, faut pas parler comme ça. Je dis, pourquoi tu dis ça ? Elle me dit, non, Claude, il est mort, mais attends, il faut que ça reste entre nous. Sinon, il va t'arriver des bricoles. Elle me fait comme ça, hein, en montrant son doigt. Elle me dit, Claude, je l'ai fait liquider. Je dis, attends, mais au début, je pensais qu'elle plaisantait.
Je l'ai fait liquider. Bruno a bien senti que Béatrice ne plaisantait pas. Elle lui a même expliqué comment elle avait attiré son amant sur les hauteurs de Menton sous prétexte de lui faire visiter une vieille maison.
Je l'ai guidé avec le portable et quand il est arrivé avec son 4x4, il s'est garé. et elle lui avait fait comprendre de racheter cette maison pour se remettre ensemble. Lui, il est rentré, mais il a vu deux personnes en train de couper de l'herbe. Il était un peu anxieux. Alors Béatrice, elle lui fait « Oui, tu vois, cette maison-là, tu vois, il y a des travaux à faire, mais ça serait bien si on habiterait là maintenant. »
À ce moment-là, deux hommes seraient rentrés dans la maison.
Ils arrivent vers lui et là, ils ont sorti une arme. Là, elle a compris. Elle allait rester en retrait. Ils l'ont fait mettre à genoux. Et il a levé les yeux comme ça. Il avait les yeux globuleux. Il était complètement l'air évasif. Et il se sentait. Il sentait que c'était sa dernière heure. Et la façon qu'elle m'avait donné la description de Claude, je connaissais très bien Claude, son visage et tout. Et c'est vrai, quand il était un peu émotif ou quoi, il avait tendance à relever les yeux comme ça. Ça concordait vraiment, ça concordait. J'avais froid dans le dos, hein, je lui dis franchement. Hein. Puis je vous dis des détails, le fait de me dire après, oui, après je suis venu vers lui, donc il était mort, hein, et les deux personnes qui étaient autour de son corps lui ont dit surtout, tu marches pas dans le sens, sinon il va y avoir des traces. Hein, et ils lui ont donné deux coups de pied dans les côtes, et ils lui ont dit, tu porteras plus jamais la main sur une femme. C'est ce qu'elle m'a dit.
Toujours au cours de cette soirée en boîte de nuit, Béatrice propose à Bruno de l'emmener sur place.
Ils l'ont découpé, ils l'ont mis en morceaux, ils l'ont brûlé. Bon, je dis non, je dis, ça ne m'intéresse pas. Déjà que j'avais à ma verre refroidi, je dis non, ça ne m'intéresse pas.
Quant au mobile, Béatrice prétend avoir de bonnes raisons.
Pour elle, c'était la chaussure qui lui avait jetée en pleine figure et qu'elle avait cette balafre. Ça lui dérangeait d'avoir cette petite cicatrice sur le coin de la lèvre. Mais, je sais pas, ça fait gros. Moi, je trouve que ça fait gros, hein. Exécuter une personne pour avoir fait une balafre.
Au commissariat de Menton, les policiers sont sidérés. Ce témoignage est inespéré.
Bruno Bagnana me mime les différentes situations comme s'il y était, tout à fait.
Ce récit colle avec notre réalité judiciaire. Hein, il nous apprend que Claude Bichet serait allé sur l'arrière-pays mentonnais. Ce qui est vrai, c'est son portable le prouve, qu'il aurait été abattu aux alentours de midi et demi, une heure. Le dernier appel de Claude Bichet étant à midi et demi. Ces éléments-là, nous ne les avons pas communiqués à Bruno Bagnana, il ne le sait pas. Donc s'il nous en parle, il ne peut pas l'avoir inventé.
Tous les éléments qu'on avait déjà matérialisés à l'époque viennent s'imbriquer. Mais Bruno Bagnana, il ne peut pas nous dire où se trouve le terrain, où se trouve le corps, qui a fait quoi.
Philippe Dorsay, dans ce dossier, vous êtes le juge d'instruction et à votre tour, vous êtes amené à entendre Bruno Bagnana. Est-ce que, d'emblée, vous trouvez son témoignage crédible ?
Il y a un problème concernant Bagnana, c'est pourquoi est-ce qu'il sait autant de choses et pourquoi est-ce qu'il n'a pas déposé jusque-là ? Soit c'est qu'il a très très peur des personnes qu'il risque de mettre en cause, soit parce qu'il est lui-même très proche des faits quand ils se commettent et qu'il a vu lui-même les faits dont il parle. Donc il va falloir choisir entre les deux thèses.
Ça veut dire que vous le soupçonnez à un moment donné ?
Évidemment. Évidemment, on peut ne pas exclure qu'il ait participé à quelque chose.
Vous l'entendez comme témoin ou, à un moment donné, comme témoin possiblement acteur, et donc vous le placez en garde à vue ?
Non, pas en garde à vue. Il est entendu comme témoin, c'est-à-dire qu'on prend le pari, on prend un risque, qui est de considérer que la version de Bagnana est la bonne.
Dans la foulée, les policiers se gardent bien d'interpeller Béatrice. Ils le feront quand, peut-être grâce aux écoutes, ils auront le nom des tueurs. En attendant, il convoque ses proches.
Des gens qui la connaissent, qui vont pouvoir lui faire remonter cette information qu'ils ont été entendus dans cette affaire, alors qu'elle ne l'est pas.
Si ses proches se plaignent auprès d'elle, lui demandent des comptes, Béatrice va peut-être commettre une faute.
À un moment ou à un autre, Béatrice Edouin doit lâcher des bribes de conversations qui vont nous amener aux exécutants ou à des témoins qui sont au courant de cette affaire.
Et le piège fonctionne. À peine sortis du commissariat, les proches de Béatrice se ruent sur le téléphone. Ils ont deux mots à lui dire.
Je l'appelle. Et je lui dis, par ta faute quand même, regarde ce qui m'arrive, je suis convoquée au commissariat, on m'a posé des questions. On a des mots où je lui fais comprendre que si ça continue, je vais leur dire que je sais.
Ce que je sais. Les policiers comprennent que Léa leur a caché des choses. Elle ne leur a pas dit que Béatrice s'était confiée à elle.
Elle me dit, voilà, j'ai fait assassiner Claude. J'ai engagé deux hommes pour le faire tuer. Elle était très fière et je pense de fait de le dire à tout le monde, parce que bon, je ne suis pas la seule personne à qui elle en a parlé, c'était pour dire, voilà de quoi je suis capable, faites attention.
Mais ça, elle ne l'a pas dit aux policiers. Et c'est l'écoute des conversations d'une autre amie de Béatrice qui va les faire avancer, une certaine Rachel. Au début, leurs échanges sont plutôt banals.
Elle m'appelle souvent sur les écoutes téléphoniques, mais si on lit les écoutes, on voit que c'est pour des trucs. Si tu vas à Carrefour, est-ce que tu peux me prendre ceci? Si tu repasses dans le centre, est-ce que tu peux regarder si tel magasin est ouvert, si tu fais ci ou là?
Mais entre deux histoires de shopping, les policiers repèrent le nom de deux hommes.
Un surnom de Mimi et un surnom de Lolo ou Dodo. On n'est pas trop sûr. En fait, un coup, on pense que c'est Dodo, un coup, on pense que c'est Lolo.
Mimi et Dodo ou Lolo. Manifestement, Rachel et Béatrice les connaissent bien. Et un jour, le fameux Lolo ou Dodo finit par appeler Béatrice. Les policiers en profitent pour placer sa ligne sur écoute. Elle a été ouverte sous un faux nom.
Lolo va recevoir un appel d'un garage qui viendrait réparer sa moto et qui l'appelle par son nom. Et on va apprendre que ça serait un monsieur Roméo Laurent. Et quand on s'intéresse à ce monsieur, on s'aperçoit que Roméo Laurent est loin d'être inconnu pour la police.
L'homme est dans les fichiers depuis 15 ans. Tout jeune déjà, ce Roméo faisait parler de lui.
C'est quelqu'un qui a déjà des antécédents sur des violences graves. Et on se dit que ça peut être notre client ou un de nos clients. Enfin, on voit que Béatrice Edouin, pour, je dirais peut-être la première fois, côtoie quelqu'un qui est un voyou.
Ce Laurent Roméo est en relation avec un certain Michel Co. Michel, tiens, ou Mimi, ça peut coller. D'autant que lui aussi est fiché depuis 10 ans et il connaît Béatrice Edouin.
On apprend dans ces interceptions que Béatrice Edouin est redevable. Elle doit de l'argent. Elle doit de l'argent à Laurent Roméo et à Michel Co. Elle va s'affairer chaque mois, essayer de régler une dette.
Une dette à des voyous. Les policiers qui suivent maintenant toutes les conversations téléphoniques de Laurent Roméo et de Michel Co n'ont pas de mal à imaginer ce que peuvent cacher leurs sous-entendus.
Voilà, on parlera de Dame B, on parlera de réparation, de loyer. Et là, on se demande si Béatrice Edouin, en fait, dans le cadre du contrat qu'elle aurait monté, se retrouve pas obligée de payer à tempérament le contrat à crédit.
Un contrat à crédit pour une femme qui ne roule pas sur l'or.
Laurent Roméo, dans une écoute, mentionne d'ailleurs à Michel Co qu'il en a marre, qu'il veut lui donner une correction. Il veut son argent, elle ne le paye pas, donc la situation tourne au vinaigre.
De fait, fin 2001, Béatrice Edouin est victime d'une intimidation musclée et elle s'empresse de tout raconter à Rachel au téléphone. Les deux hommes lui ont donné rendez-vous dans un quartier malfamé de Nice, au vallon de la Madeleine, un peu à l'écart, derrière une église.
Là, ils vont, entre guillemets, la secouer, lui faire peur. Béatrice Edouin dira qu'elle a peut-être eu peur de mourir ou qu'ils allaient la tuer pour qu'elle soit bien certaine qu'elle doit continuer à payer. et que ça va pas s'arrêter tant qu'elle aura pas donné la somme complète.
La somme complète. Justement, ce jour-là, Béatrice la révèle à Rachel. Ils exigent 200 000 francs chacun, soit 400 000 francs, 60 000 euros. C'est trop, dit-elle. Béatrice demande à Rachel d'intercéder en sa faveur auprès des deux hommes.
Elle avait dit, oui, alors il était prévu que je donne une certaine somme à la base, et puis maintenant, c'est plus ça, c'est du simple au double. Maintenant, ils essaient carrément de me racketter. Bon. Ce qui les avait fait énormément rire, d'ailleurs, quand je leur avais dit « Vous n'avez pas honte, quand même ?» Et ils étaient complètement... ils étaient morts de rire. Je dis « Mais absolument pas, Rachel, on la raquette pas. Elle nous a emprunté de l'argent, elle doit nous le rendre. »
Pour les policiers, tout colle. Deux voyous qui ont pu jouer les hommes de main, une somme d'argent importante, reste à trouver où Claude Bichet a été tué. Les policiers pensent bien à ces montagnes de l'arrière-pays mentonnais où son portable a bipé pour la dernière fois. Mais c'est vaste. Quand Mimi, Michel Co, vient leur donner un coup de main, il appelle régulièrement un ami, un ancien co-détenu, Jean-Jacques Gros.
En consultant les archives de Jean-Jacques Gros, on s'aperçoit qu'il a un terrain sur la route de la Condamine à Castellar.
Castellar, juste au-dessus de Menton. Le village arrosé par l'antenne relais qu'a déclenché le téléphone portable de Claude Bichet le jour de sa disparition.
Alors, Gros, c'est une espèce d'ermite, on va dire, hein. Quelqu'un d'assez bourru qui vit dans sa campagne sur Castellar. C'est quelqu'un qui ne sera pas affolé si on lui présente la chose en lui disant qu'il va se passer quelque chose chez lui, qu'il va peut-être toucher sa part et qu'il laisse faire.
Et là, on se dit qu'on tient une piste importante. Une piste importante dans la mesure où on a peut-être le lieu où les faits ont été commis, où Claude Bichet peut se trouver.
Alors Dominique Rizet, qui sont ces trois hommes ?
Michel Co, Jean-Jacques Gros, Laurent Roméo, Christophe. Tous les trois ont en commun d'être connus des services de police, d'avoir un casier judiciaire et d'avoir fait de la prison. Lui, Michel Co, il est né en 1965. Il est divorcé. Il vit entre le domicile de sa petite amie et le domicile de sa mère. Il est très proche de sa mère et c'est important de le savoir. Il était impliqué dans une affaire de trafic de drogue, une grosse affaire contre le Maroc et la Corse. C'était en 91 et en 94, il était condamné à 10 ans pour ça. Lui n'a pas de sang sur les mains, contrairement aux deux autres. Celui-ci, c'est Jean-Jacques Gros. Il est né en 1956. Il a été marié. On ne lui connaît pas de vie professionnelle stable. En 1988, à Menton, il a abattu un bijoutier d'un coup de chevrotine au cours d'un braquage qui a mal tourné. Il a été condamné à 18 ans de prison pour cet assassinat. En prison, il a fait des études, il a passé un DEA d'histoire et au moment de l'affaire Edouin, eh bien, il vient de sortir de prison, il a purgé 15 ans, il est en conditionnel et il s'est installé comme agriculteur à Castellar. Le dernier, Laurent Roméo, lui, il est né en 1967. Au moment de l'affaire Edouin, il est déjà mis en examen dans une autre affaire de meurtre, affaire dans laquelle il avait là aussi deux complices. La victime s'appelait Smaïn Ziad. C'est une affaire de recel de bons du trésor. On a retrouvé le corps de Smaïn Ziad dans un port, dans l'eau. Il avait été lesté, il est remonté à la surface. Il a été mis en examen dans cette affaire, incarcéré et relâché en attendant son procès qui doit se dérouler en décembre 2002. Décembre 2002, on est en pleine affaire Edouin. Et pour le meurtre de Smaïn Ziad, il prendra 16 ans.
En mars 2002, après un an d'enquête, les policiers s'apprêtent à interpeller tout le monde. Les trois hommes et Béatrice Edouin. Quand, grâce aux écoutes, ils ont du nouveau. Roméo, Co et Béatrice se sont donné rendez-vous dans un café de Nice pour une remise d'argent. Les policiers décident de les prendre la main dans le sac.
6 mars 2002, midi pile. Le dispositif est en place. Dehors, dedans, les policiers cernent le café. Ils communiquent entre eux discrètement. Ils sont prêts à intervenir.
Si les trois principaux suspects dans cette affaire sont présents, on interpelle.
Le premier à arriver, c'est Laurent Roméo. Discrètement, les policiers le photographient. 5 minutes plus tard, Béatrice Edouin entre à son tour dans le café. Désormais blonde, elle se dirige vers la table où Roméo s'est installé.
Béatrice sort une enveloppe de son sac, gênée. Elle va sur ses genoux sous la table compter des billets, dont les policiers verront qu'ils sont de couleur verte. À ce moment-là, on est passé en euros. Et remettre l'enveloppe à Laurent Roméo qui va juste jeter un œil rapide dedans sans tout détailler et prendre l'enveloppe. Ça va discuter un petit peu et ils vont se séparer.
Michel Co n'est pas venu. C'est raté. Les policiers ne branchent pas. Mais quelques heures plus tard, Co contacte Roméo pour savoir si Béatrice était bien au rendez-vous.
Et de fixer rendez-vous à Laurent sans trop être pressé, mais pour le lendemain, pour qu'il se voit, hein, et comme il dira, avant la fermeture des banques. Mais il veut récupérer son argent.
Cette fois, les policiers ont assez de billes pour coffrer tout le monde. 12 jours plus tard, le 18 mars, c'est le coup de filet. Au petit jour, les policiers interpellent Béatrice Edouin, Michel Co, Laurent Roméo et Jean-Jacques Gros. Les trois hommes sont aguerris, ils connaissent bien les rouages de la garde à vue, ils bottent en touche. Michel Co ne dit pas un mot.
En bon voyou, je dirais, il veut savoir ce qu'on a en main. Et la seule, le seul moyen qu'il ait, c'est d'être mis en examen et que son avocat ait accès au dossier.
Laurent Roméo, lui, parlerait bien, mais il n'a rien fait, il n'a rien vu, il n'est au courant de rien.
Il est en relation avec Béatrice, effectivement, une amie, il connaît Michel Co, un ami, Jean-Jacques Gros, peut-être, il a peut-être vu, c'est pas sûr, il est pas certain. Et ça va s'arrêter là, en fait. On va faire de nombreuses auditions qui sont, on va dire, stériles.
Quant à Jean-Jacques Gros, il fait le coup du voyou repenti.
Comment voulez-vous, ayant coûté à la prison pendant de nombreuses années, que je me mette dans cette situation pour quelqu'un que je ne connais pas, Béatrice Edouin, pour quelqu'un qui ne m'a rien fait, Claude Bichet, qu'est-ce que ça peut me rapporter, outre que la prison, si quelque chose a été fait, vous me dites chez moi, ça a été fait dans mon dos.
Béatrice est interrogée dans le bureau d'à côté. Elle est moins endurcie, mais elle soutient qu'elle n'a rien à voir avec la disparition de Claude. Et d'ailleurs, la victime, ce n'est pas Claude. C'est elle.
Elle retourne la situation en sa faveur, entre guillemets, en disant, bon, j'ai été violenté, j'y suis pour rien, même si les différents éléments, petit à petit, vont lui être mis en évidence, elle nie.
Mais quand elle apprend que Laurent Roméo et Michel Co sont interrogés dans la pièce d'à côté, elle perd tout à coup de sa superbe.
On la voit affolée sur son siège, elle me crie « Ah, Michel est là, Laurent est là, ils vont me tuer », elle a vraiment peur.
Béatrice est tétanisée. Les policiers comprennent qu'ils n'en tireront rien pour le moment. Alors ils tentent autre chose. Son amie Rachel, elle pourrait peut-être bien se mettre à table plus vite. Les policiers la convoquent au commissariat de Beausoleil, soi-disant pour un excès de vitesse, et ils vont tout faire pour l'impressionner.
Deux types sortent d'un bureau, me sautent dessus, me mettent les menottes et me jettent dans une voiture. Je dis, vous ne trouvez pas que c'est un peu excessif pour un excès de vitesse? Et là, on me dit juste ta gueule.
En 20 minutes, Rachel arrive sous bonne garde au commissariat de Menton.
Et là, on m'annonce que je suis mise en garde à vue pour enlèvement et séquestration. La police me montre des photos, notamment donc ce fameux Claude Bichet. Je le connais pas. Elle montre une deuxième photo, donc c'est la personne qui a la maison en haut, là-bas, dans la campagne. Je le connais pas non plus. Et ensuite, elle me montre Michel Co et Laurent Roméo et Béatrice Edouin. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis complètement... Mais donc, vous connaissez pas ces deux personnes, vous êtes sûr, mais vous connaissez les autres? Je dis oui.
Comme Béatrice, Rachel est une copine de Co et Roméo. Les policiers la cuisinent au sujet de l'argent. Savait-elle pourquoi Béatrice devait 400 000 francs à ses copains? Oui, pour payer des travaux sur sa voiture et régler une histoire d'héritage, répond Rachel. Béatrice l'a bien berné.
L'ex-compagnon de Béatrice, le père de ses deux filles, ancien braqueur, a lui aussi été placé en garde à vue. Et il craque. Il avoue à demi-mot que Béatrice lui a parlé, elle s'est confiée. Les policiers veulent alors le confronter à son ex-femme. Mais Béatrice refuse et demande à être entendue seule.
Béatrice raconte. Quelques mois avant la disparition de Claude, elle a rencontré Michel Caux par l'intermédiaire d'une amie. Et elle lui a confié ses malheurs. Elle était prisonnière d'un amant violent, Claude Bichet.
Elle demande à Michel Caux de régler son problème par la violence. En aucun cas de le tuer. Juste de lui donner une correction.
Béatrice voulait juste le punir. Et elle poursuit.
Michel Caux semble accepter, lui présente Laurent Roméo et indique à Béatrice Edouin qu'ils sont d'accord.
Ça lui coûtera 10 000 francs, 1 500 euros. Béatrice accepte. L'opération est fixée au 10 avril. À charge pour Béatrice d'attirer Claude sur un terrain à Castellar. Facile, Claude veut acheter une maison dans le coin. La veille de l'opération, Michel Caux aurait confié à Béatrice un nouveau portable. Elle ne devait s'en servir que le jour J.
Pour nous, c'est le rendez-vous qui est organisé. Béatrice Edouin doit guider, entre guillemets, Bichet vers elle. C'est un endroit reculé, donc plusieurs appels, c'est plausible hein, qu'elle le guide téléphoniquement pour qu'il la rejoigne. Et en même temps, prévenir Caux de la progression, hein, je dirais, de la victime, dans le même temps. Hein.
Béatrice poursuit. Claude la rejoint près de Menton. Et puis, il a suivi sa voiture. Quand ils sont arrivés à une bifurcation, elle lui a indiqué la direction à suivre, celle de Castellar. La maison, lui a-t-elle dit, est à 3 km. Ensuite, elle est partie. Elle ne l'a jamais revue.
Et elle dit avoir quitté Castellar pour rejoindre Nice. Elle sait, par Michel Caux, que Claude a été corrigé, qu'elle n'entendra plus parler de lui, et à partir de là, elle n'en parle plus.
Elle nous dit qu'elle n'est jamais montée dans cette fameuse maison où a été conduit, où a été amené Claude Bichet. Elle ne sait pas où c'est.
Le lendemain, Béatrice conduit les policiers à la bifurcation où elle prétend avoir laissé Claude Bichet. Les policiers s'engagent sur la route et, à leur grande surprise, de fil en aiguille, Béatrice les conduit droit à une maison en ruine.
En feignant de ne pas savoir, mais ça peut être là, et on arrive jusqu'à la bâtisse.
Cette maison, bah c'est celle de Jean-Jacques Gros. Les policiers sont perplexes.
Vu où est le terrain, le chemin, donc Béatrice Edouin ne peut pas le trouver, elle, comme ça, du premier coup, sur une indication verbale que lui aurait fait Caux un an auparavant. C'est pas possible. Pour nous, c'est pas possible.
Si elle nous amène à cet endroit, c'est qu'elle le connaît. Donc, c'est un élément supplémentaire qui nous laisse penser qu'elle était présente lors de la disparition de Claude Bichet.
Philippe Dorsay, à l'issue de leur garde à vue, ces cinq personnes vous sont présentées pour ce qu'on appelle l'interrogatoire de première comparution. Alors comment ça se passe? On pourrait peut-être commencer par Caux et Roméo. Comment est-ce qu'ils se comportent dans votre cabinet?
Ils se conduisent comme des voyous, c'est-à-dire des gens qui, de toute façon, nient tout, ne savent pas de quoi on leur parle. À l'ancienne, on va dire, c'est...
Ils chiquent, comme on dit.
Voilà, comme on dit communément, ils chiquent tout. Et ils ne veulent surtout rien dire qui pourrait les engager.
Vous les mettez néanmoins en examen?
Je les mets en examen et je saisis le juge de la détention pour qu'ils soient écroués.
Gros.
Et Gros, à la différence des deux autres, il parle un peu. Il m'explique que si jamais il va en prison, d'abord ce sera injuste, puisque lui, en toute hypothèse, n'a rien à voir avec tout cela. Et en outre, il est prêt à envisager toutes les extrémités, y compris le suicide. quand le parquet demande son placement en détention provisoire, moi j'estime que il a donné des gages, on va dire, de bonne volonté.
Voilà, il a fait un geste et vous en proposez un autre qui est de le mettre en examen, certes, mais pas l'envoyer en prison. Et Béatrice Hédouin, alors, qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces aveux aux policiers sur la base d'une correction? Est-ce que cette histoire est crédible?
L'histoire de la correction, moi, j'en crois pas un mot. On se dit que, de toute façon, elle essaye de sauver sa peau. Sauf qu'elle va mettre en cause Michel Co, en disant que c'est Michel Co qu'elle a recruté. Roméo, elle en parle très peu. Et d'ailleurs, elle va être placée en détention par le juge de la détention.
Rachel, la copine.
Béatrice Hédouin l'a manipulée comme elle a manipulé des tas de gens. Et au final, Rachel ne pouvait pas savoir ou ne savait pas, vraisemblablement, raisonnablement, que Béatrice Hédouin avait recruté ces deux personnes pour tuer un tiers.
Persuadés que le crime a eu lieu chez Jean-Jacques Gros, les policiers ratissent le terrain à la recherche du corps. Ils commencent par vider les citernes, les points d'eau, sans résultat. Ils déterrent des ossements, mais ce sont des os d'animaux. Après 3 jours de recherche, ils font appel à des chiens.
Il y a une pièce où se trouve une mezzanine, et cette pièce, le chien s'excite. Il n'arrive pas à tenir en place, il marque l'arrêt sans marquer l'arrêt. On sent, le maître chien nous confirme qu'effectivement ici s'est passé quelque chose.
La police scientifique passe la pièce au peigne fin et fait une trouvaille. Un faux ongle, nacré, blanc. Les policiers pensent tout de suite à Béatrice.
Béatrice Hédouin étant une femme très apprêtée, c'était compatible avec le fait qu'elle ait pu avoir un faux ongle, qu'elle ait pu en porter. D'ailleurs, elle a reconnu qu'elle en portait, de toutes les couleurs, donc pourquoi pas nacré blanc.
Les policiers recherchent une trace ADN sur ce faux ongle. Ils n'en trouvent pas. L'ongle reste un indice, mais pas une preuve que Béatrice était présente dans la maison. Les chiens longent maintenant la maison et marquent l'arrêt dans une pièce en contrebas. Un ancien poulailler.
Donc on décide de sonder le poulailler et de creuser à l'endroit où la partie est la plus meuble. On retire les pierres, on retire la terre. Et à un moment, à 50-60 cm de profondeur, on découvre un morceau de couverture. On continue à creuser, on essaye de tirer sur la couverture et à un moment, donc je me trouve dans ce trou et à peu près 1 mètre de profondeur, je tombe sur une racine que j'apparenterais à une sorte de racine de ginseng, un truc un peu tordu. Je creuse autour de cette racine et je m'aperçois qu'à côté de cette racine, il y a une manche de blouson et un bouton. Et je m'aperçois qu'en fait, cette racine, c'est une main. Ah, c'est vraiment un sentiment indescriptible, quelque chose d'un aboutissement et une satisfaction. Le fait d'avoir atteint un but. On était assommé.
Les policiers dégagent le corps momifié d'un homme allongé sur le dos.
Il a un sac sur la tête, il présente a priori une plaie temporale, hein, donc il aurait bien une balle dans la tête. Ça corrobore tous les éléments qu'on a en main. Pour nous, policièrement parlant, on est certain qu'on a trouvé Claude Bichet.
Pierre Bichet, comment est-ce que vous apprenez qu'on a retrouvé le corps de votre père ?
Alors, en fait, je me promène à Menton et je vois un gros mouvement de voitures de police dans la journée. Et en fin de soirée, je reçois un coup de téléphone du capitaine de la police de Menton qui me dit « Voilà, on a retrouvé votre père ». Et là, moi, je tombe... À ce moment-là, je fais une crise de tétanie parce que je ne m'attendais pas à l'assassinat vraiment. Je m'attendais à ce qu'il soit pas là, mais je n'arrivais pas à me dire ils l'ont tué, ils ont fait quelque chose de mal.
Alors on vous demande un test ADN pour prouver que c'est bien lui.
C'est la police qui vient me chercher, qui me contacte, qui vient me chercher à la maison en me disant voilà, on doit venir vous chercher pour passer un test ADN chez un médecin à Nice pour confondre votre ADN avec le corps qu'on a retrouvé. Parce que comme il était déjà décomposé, ils n'arrivaient pas vraiment à faire la ressemblance avec les photos. Et je pars avec eux, je passe le test ADN et le test ADN est positif.
Les conclusions des expertises tombent un mois plus tard. Elles sont accablantes. Claude Bichet a été tué d'une seule balle, du 9 mm, le calibre des professionnels. La balle a été tirée dans la tempe, à un mètre de distance, de haut en bas. Et comme Claude Bichet était bien plus grand que Michel Caux, Laurent Roméo ou même Jean-Jacques Gros, c'est qu'il n'a pas été abattu debout.
Claude Bichet était à genoux, comme nous a dit Bruno Baliana, hein, donc ça a corroboré cette thèse. Et en plus, on va lui trouver donc des infiltrations hémorragiques au niveau du thorax, ce qui va également confirmer ce qu'a dit Baliana sur le fait que après le tir, Claude Bichet aurait reçu des coups de pied ou aurait été frappé sur le haut du corps, hein, ce que Baliana ne pouvait pas inventer.
La vérité, c'est ce que Béatrice a raconté à Bruno Baliana. Pas ce qu'elle a dit aux policiers.
Pour nous, ça ne peut pas être une correction qui a mal tourné, hein, puisqu'il y aurait plus de signes de bagarre sur le corps si c'est une correction. Une balle qui est tirée dans la tête en trajectoire descendante, ça cadre pas. Donc c'est l'exécution type, l'assassinat.
Philippe Dorsay, le corps a donc été découvert et vous décidez évidemment de revoir Écho et Roméo et Edouin. Est-ce que la découverte du corps change quelque chose à leur attitude, à leur posture?
Alors, la découverte du corps va très clairement déstabiliser une partie des versions que me donnent les uns et les autres. Non seulement on a trouvé le corps, mais on a trouvé ce corps qu'on identifie comme étant celui de Claude Bichet avec une balle en pleine tête. Ce qui valide parfaitement, a posteriori, la version que nous a donnée Baliana. Donc, Edouin, elle, maintient sa version en disant « moi, c'était une correction ».
Voilà.
C'est Michel Caux que j'ai recruté. Après ce qu'ils ont fait, j'en sais rien. Mais là, Caux et Roméo, de toute façon, blackout, j'entends plus rien.
Et eux, ils sont toujours dans le déni. Hein.
Voilà, ils sont toujours dans le déni. Et moi, celui qui m'intéresse à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas imaginer une seconde que le corps puisse se trouver là sans que Gros sache au moins dans les grandes lignes ce qui s'est passé.
Donc vous allez l'interpeller ?
Je le convoque et il ne vient pas.
Ah, il a disparu ?
Il disparaît et je vais délivrer mandat d'arrêt.
Évidemment, à partir du moment où on a découvert le corps, les chefs d'inculpation évoluent. On n'est plus dans une disparition et séquestration.
Je vais mettre en examen toutes ces personnes, des chefs d'assassinat.
Pendant un an, les trois suspects campent sur leur position. Jusqu'au 3 février 2003. Ce jour-là, une lettre arrive sur le bureau du juge, une lettre signée Jean-Jacques Gros, l'homme en cavale.
C'est une feuille d'écolier griffonnée recto verso et signée à trois endroits différents. Jean-Jacques Gros y raconte sa version des faits. La mort de Claude Bichet n'est pas un assassinat. C'est une bagarre qui a mal tourné. Ce jour-là, Jean-Jacques Gros était chez lui avec Laurent Roméo quand Claude Bichet est arrivé. Roméo l'a bousculé. Claude a alors sorti une arme. Jean-Jacques Gros a bondi sur lui. Le coup de feu est parti. C'est un accident. Pour les policiers, cette version est surtout complètement loufoque.
Pourquoi Bichet serait monté visiter une maison qu'il veut acheter armée ? Ça n'a pas de sens. Le coup serait parti de manière fortuite, ce qui, vu la localisation du coup, est fort improbable. Et en plus, les analyses techniques prouveront que le tir n'a pas pu être rapproché. C'est un tir qui a plus d'un mètre de distance. Donc c'est pas compatible avec une scène de bagarre, hein, il me semble.
Après la mort de Claude Bichet, Jean-Jacques Gros aurait demandé à Roméo de partir et il serait allé chercher Michel Caux. Il fallait se débarrasser de la voiture de Claude. Michel Caux aurait promis de s'en charger. Jean-Jacques Gros, lui, devait s'occuper du corps. Et voilà comment Jean-Jacques Gros prend le crime sur lui. Ça ne mange pas de pain ? Il est en cavale.
Il est possible qu'on ait pu lui demander soit en le menaçant, soit contre rétribution, de faire cet écrit. Cet écrit qui sera signé à plusieurs endroits de la signature de Gros, comme pour prouver que c'est bien lui qui l'a fait.
Je pense que c'est de la part de Jean-Jacques Gros quelque chose qui lui a été dicté, parce qu'il avait failli, parce qu'il aurait dû se débarrasser du corps, et c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et d'une certaine manière, il rend service à Laurent Roméo et Michel Caux, ses comparses.
Jean-Jacques Gros tenterait donc de se rattraper. Mais à la demande de qui ? Caux ou Roméo ? C'est là que Caux se décide soudain à parler au juge. Pour la première fois, il admet que Claude Bichet a bien été entraîné dans un guet-apens pour une correction. C'est Gros et Roméo qui devaient faire le sale boulot. Mais les choses ont mal tourné. Gros a tiré et c'est là qu'il a rappliqué pour aider ses copains dans le pétrin.
Il reconnaît par exemple la dissimulation de cadavres ou la non-dénonciation de crime. Et il monte là-haut, il s'entend, il redescend la voiture de Claude Bichet, il est prévu que Jean-Jacques Gros dissimule le cadavre, et avec Laurent Roméo, je crois, ils vont déposer la voiture loin de la ville de Nice. Voilà. Voilà le rôle. Voilà le rôle de Michel Caux.
Et quand le juge en vient aux 400 000 francs, les 60 000 euros que Béatrice devait rembourser, Michel Caux répond qu'il ne s'agit pas d'un contrat. Il rackettait Béatrice.
Michel Caux est, d'une certaine manière, voulu tirer profit d'une situation qu'il n'a pas voulu et à laquelle il n'a pas participé, est possible, reste possible. Pour autant, ça n'en fait pas un assassin.
De son côté, Laurent Roméo maintient ses déclarations. Il n'a rien à voir là-dedans, l'être ou pas l'être.
Laurent Roméo, clairement, c'est le juge d'instruction, et lorsque je vais le voir, me dit « tout ça c'est grotesque, il s'agit d'une manipulation et que ce n'est pas la transcription de la réalité puisque lui n'y était pas. Il pense que c'est un piège qu'on lui tend. »
À la prison de Nice, le torchon brûle maintenant entre Caux et Roméo. Entre celui qui parle et admet le guet-apens et celui qui se tait. Quand en octobre 2003, Jean-Jacques Gros, le troisième larron, est enfin arrêté. En cavale, il a pris le crime sur lui, mais devant le juge, il n'en mène pas large. Il revient sur sa lettre. C'est pas lui qui a tiré, même par accident. Ça ne peut être que Roméo. C'est Roméo qui l'a vu à Castellar le jour du meurtre. En revanche, Gros dédouane Caux. Lui, il n'était pas là.
Le juge s'apprête à clore son instruction et à renvoyer tout le monde devant la cour d'assises quand l'un des accusés lui envoie un petit paquet.
Fin 2004, Michel Caux fait parvenir au juge, entre autres, deux schémas qui retracent la scène de crime. Des courriers que Roméo lui aurait fait parvenir 2 ans plus tôt, alors qu'ils étaient tous les deux à la prison de Nice.
Caux s'en sert pour gagner du temps, mais s'en sert également pour dire « c'est Laurent Roméo qui a tué Claude Bichet ».
Ces schémas sont très précis.
On voit un homme debout, dessiné de façon sommaire, un angle de tir et une arme à feu, et des pointillés mentionnant l'impact de la balle sur le corps.
Un tir à 1,50 m. Une victime légèrement penchée en avant. Le schéma correspond point pour point aux conclusions de l'autopsie. C'est bien l'exécution de Claude Bichet qui a été dessinée.
Pour moi, enquêteur, il est évident qu'on ne peut absolument pas inventer ces schémas, voire les petits mots, sans avoir une implication forte dans ce dossier. Les schémas n'ont pas pu être reproduits sans avoir été présents sur les lieux.
Si Roméo est bien l'auteur de ces dessins, il ne pourra plus dire qu'il n'est au courant de rien. Et c'est sans doute ce qu'espère Michel Caux, mouiller Roméo, le présenter comme le tireur.
Philippe d'Orsay, d'après vous, hein, qui est l'auteur de ces petits mots et de ce schéma?
Alors, l'auteur de ces petits mots, il y a deux expertises qui ont été faites, c'est Laurent Roméo.
Bon, vous, à ce moment-là, vous étiez sur le point de clore votre instruction. Il faut vous remettre au boulot, là, parce que les mots changent quelque chose, quand même. Les dessins, les mots...
Alors, il faut se remettre au travail, comme vous dites, parce qu'une expertise, ça prend du temps. Et comme il s'agit de pièces qui amènent quand même quelque chose de nouveau dans le dossier, on est à peu près certain qu'il va y avoir une contre-expertise.
La conséquence, c'est que vous ne pouvez pas garder tout le monde en prison, ça dure depuis trop longtemps.
C'est une conséquence légale. C'est-à-dire qu'en matière criminelle, enfin à l'époque, c'était 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il fallait libérer Edouin et Michel Caux.
Finalement, quand vous allez clore le dossier, quel sera le scénario que vous retiendrez? Qui a tiré?
Alors, c'est un peu compliqué, puisque il y a une balle mortelle, et j'ai censément 2 tueurs, je ne sais pas.
Qui était là, au moment du meurtre?
Béatrice Edouin, qui est là. On a un portable qui le prouve. Michel Caux est là, son portable le prouve. Laurent Roméo est également là. Gros est forcément là, puisque c'est chez lui. La seule chose qu'on sait, c'est que Bichet disparaît. On n'a plus de nouvelles de lui à partir de 12h11, le 10 avril.
Et ils sont là tous les quatre.
Ils sont là tous les quatre.
Le 16 janvier 2007, s'ouvre le procès à Nice. Béatrice Edouin arrive libre au palais de justice, au milieu de la famille et des proches de Claude Bichet.
Le matin, avant de rentrer au tribunal, très souriante, elle rigolait avec une amie à elle, elle était très en forme. Et dès qu'elle passait le portique du tribunal, c'était... la veuve éplorée qui réclamait de rejoindre Claude au ciel. Elle l'a dit plusieurs fois pendant le procès.
Dès le premier jour, la présidente du tribunal lui donne la parole. Béatrice Edouin s'explique.
Alors elle, vraiment la pauvre... Non, elle voulait simplement qu'on dise à Claude d'arrêter de la frapper. C'est tout. Elle, elle n'a jamais demandé ça.
Elle était comme une petite dame, toute gentille. Vraiment comme ça, elle parlait comme ça, tout doucement. Au tribunal, ils lui ont dit, mais vous avez un autre ton d'habitude quand vous parlez. Alors ils nous ont fait écouter cette cassette.
Une cassette enregistrée lors des écoutes téléphoniques. Béatrice parle à une voisine.
On approche des fêtes de Noël. Et dans un langage extrêmement feutré, elle dit à cette personne « Mais je vous aime beaucoup, je viendrai vous présenter mes vœux. » Et tout d'un coup, mais en une fraction de seconde...
Elle injure partout cette pauvre femme, je ne sais pas pourquoi, la concierge, mais elle lui dit tous les mots, mais vrai comme une poissonnière.
Il faut pouvoir le dire, ce qu'elle a dit. Hein. C'est pas, enfin, une personne de normale, elle ne le fait pas, ça. Hein.
Le vernis a craqué. À la barre, les experts psychiatres et psychologues expliquent qu'ils ont du mal à la cerner. Malgré une enfance heureuse, une adolescence sans problème, Béatrice est fragile et immature.
Elle est dans ce besoin d'exister à travers l'autre, à travers une image impeccable, à travers l'image d'une femme belle, séduisante, alors que derrière, en fait, c'est une petite fille qui demande de l'amour.
La notion d'un autre en tant qu'autre est quelque chose qui lui manque. L'autre n'existe, me semble-t-il, ou en tout cas le plus souvent, que comme un prolongement de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas, de ce qui lui arrive de bon, de ce qui lui arrive de mal, mais pas en tant que personne douée d'une autonomie de désir indépendant d'elle-même.
Alors, lorsque l'autre veut reprendre sa liberté, elle le vit comme une trahison.
Dans le cas particulier des faits reprochés, elle n'a pas supporté cette blessure d'être quittée et abandonnée.
À côté de Béatrice, Michel Caux, lui aussi, comparaît libre. Il veut faire entendre sa version des faits. Loquace, volubile, il est très présent. Trop peut-être.
On se dit, lui, c'est le chef. Voilà. déjà par rapport aux autres, costume, très élégant, très... et puis c'est très très bien parlé, Monsieur Coe. Il est très fort, parle très bien.
Il s'est mis en fait au centre du jeu, alors que Jean-Jacques Gros et Laurent Roméo, qui sont les principaux intéressés par cette journée du 10 avril 2001, en ne répondant que peu, et simplement aux questions qui leur sont posées, ont été mis en quelque sorte un peu de côté par la cour.
Dans le box des accusés, Jean-Jacques Gros et Laurent Roméo se tiennent à carreau. Ils se font presque oublier. Et on ne sait toujours pas qui a tiré.
Si on les écoute, personne n'était là. Edouin, il n'était pas là. Gros non plus. Roméo, il n'était pas là. Echo, alors lui, il était encore moins là. Mon beau-père non plus. Et personne n'était là. Il est venu tout seul. Il s'est enterré tout seul. Tout s'est fait tout seul.
Alors la présidente cuisine Jean-Jacques Gros sur la fameuse lettre qu'il a adressée au juge pendant qu'il était en cavale. La lettre dans laquelle il s'accusait d'avoir tué Claude Bichet par accident. Depuis, il a révélé qu'il avait écrit cette lettre sous la contrainte. C'est Roméo qui lui aurait commandé de l'écrire. Mais la présidente veut en avoir le cœur net.
Alors Dominique Rizet, que fait la présidente pour savoir qui a demandé à Gros d'écrire cette lettre ?
Eh bien, elle va se baser, Christophe, sur un petit mot qui accompagnait cette lettre. Cette lettre, elle est écrite par Jean-Jacques Gros et elle est envoyée au juge d'instruction. Et avec cette lettre, il y a un petit mot manuscrit avec quelques mots, voilà, résumé de l'affaire, monsieur le juge, je me permets de... Voilà. Donc elle va prendre ce petit mot et l'écriture du petit mot, elle est différente de l'écriture de Jean-Jacques Gros. Lors de l'audience à la cour d'assises, la présidente Nicole Besset, elle va avoir une intuition. Jean-Jacques Gros dit qu'il a écrit cette lettre à la demande des hommes de Laurent Roméo. Et la présidente de la cour d'assises, elle se dit, et s'il l'avait écrite à la demande de Michel Coe ? Pourquoi pas ? Auquel cas, qui pourrait être l'auteur du petit mot ? Qu'est-ce qui est suffisamment proche de Michel Coe pour avoir écrit le petit mot d'accompagnement de la lettre ? La personne la plus proche de Michel Coe, en qui il a une confiance absolue, c'est sa mère.
Alors qu'est-ce qu'elle fait, la présidente ? Elle fait entendre la mère ?
Ben oui, la mère, elle assiste, elle est dans le prétoire. Elle assiste au procès d'assises de son fils. Donc elle l'a fait venir à la barre et lui dit « Madame Coe, est-ce que vous êtes l'auteur du petit mot ?» Alors on s'attend à la réponse, Madame Coe lui répond « Non, c'est pas moi ». Et la présidente va faire quelque chose d'assez exceptionnel. Elle va demander une expertise graphologique à l'audience. Donc elle dit à Madame Coe, vous allez écrire ce qui est écrit dans le petit mot, s'il vous plaît. Et la présidente Besset lui dicte. Madame Coe écrit. Et on va comparer, on va faire venir un expert à l'audience. Ça, c'est la dictée, c'est l'écriture de Madame Coe. Ça, c'est l'original du petit mot. On fait venir un expert à l'audience et l'expert est formel. Il dit, c'est bien Madame Coe qui a écrit ce petit mot.
Mais qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve pas que Coe est tiré ?
Non. En fait, ça éclaire l'Assemblée, la cour d'assises, sur la personnalité de Michel Coe. En fait, on a toujours pensé que Michel Coe, il était à la remorque de Laurent Roméo, que c'était un second couteau, que c'était Roméo qui dirigeait les opérations. Or là, on découvre que Michel Coe, il est capable de manipuler. C'est un manipulateur. Il a fait écrire cette lettre, il a demandé à sa mère de faire le petit mot, il a demandé à sa mère de poster la lettre à un moment bien précis de l'instruction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment, il va y avoir un tournant dans le procès. Quand Michel Coe va parler, on ne le croira plus.
Les réquisitions sont sévères. L'avocat général réclame le maximum 30 ans de réclusion criminelle. 30 ans pour tous. La cour se retire et 4 heures plus tard, le verdict tombe. La cour n'a pas suivi les réquisitions. Les peines sont disparates de 10 ans à 25 ans. 25 ans pour Michel Coe, le plus sévèrement condamné. 20 ans pour Béatrice Edouin.
Je ne comprends rien à ce verdict de la cour d'assises, puisque incontestablement, l'instigatrice, tant par le code pénal que par l'évidence de ce dossier, c'est Edouin et c'est pas Coe.
Moi, j'ai toujours dit, s'il n'y avait pas eu cette femme, mon frère serait vivant.
Michel Coe, sur son banc, est tétanisé.
Là, c'est très dur. C'est très dur parce que, non seulement Michel Coe est déclaré coupable d'assassinat, mais en plus, il se voit infliger une peine de 25 années d'emprisonnement alors que finalement les deux autres accusés, Roméo et Gros, se voient infliger des peines beaucoup plus légères.
Effectivement, la cour a été beaucoup plus clémente avec les deux autres. 10 ans pour Jean-Jacques Gros, 15 pour Roméo. 15 ans, alors qu'à la fin de l'instruction, il était soupçonné par le juge et les policiers d'être le tueur. Pour tous, c'est la surprise.
Comment Roméo, qui a un rôle similaire à celui de Co, à tel point qu'on n'a jamais réussi à savoir qui avait vraiment le doigt sur la gâchette, peut prendre 15 ans, soit 10 ans de moins que Co? C'est aberrant.
Je me tourne tout de suite dans le box vers Laurent Roméo. Il me dit « Je suis content, maître ». Et il commence à exulter en étant particulièrement satisfait de ce verdict, tellement il s'attendait à ce qu'il y ait un verdict beaucoup plus important contre lui, puisque c'est une peine de 30 années qui avait été demandée à son encontre.
Maître Colombani, vous êtes l'avocate de Béatrice Hédouin. Comment est-ce qu'elle réagit au verdict de ce procès, 20 années de réclusion criminelle?
Elle reste figée, pétrifiée par ce délibéré, par ces 20 ans. Et je lui parle et elle ne répond absolument pas. Elle n'a plus du tout de réaction et elle va être emportée par l'escorte de police.
Vous décidez de faire appel.
Immédiat.
La défense de Co aussi. Et donc il y a un deuxième procès qui a lieu en mars 2009 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Comment se déroule ce deuxième procès par rapport au premier?
La donne est différente parce qu'il manque deux protagonistes, il manque M. Gros et M. Roméo qui n'ont pas interjeté appel. Donc quelque part, ça fausse un petit peu la donne par rapport à la première instance. Et ce deuxième procès se déroule beaucoup mieux, je pense, de par l'attitude de Béatrice Hédouin, qui en première instance était très mal passée. Son image avait été très mal perçue par les jurés. En appel, je crois qu'elle a quand même 20 ans au-dessus de la tête, donc elle prend vraiment conscience de la gravité, de l'importance de cette dernière chance qui lui est donnée de pouvoir s'exprimer. Les jurés vont effectivement voir une autre personne. On a eu une Béatrice Hédouin apeurée, fragilisée, beaucoup plus sensible, et je pense qu'on est plus proche de la véritable personnalité de Béatrice Hédouin en appel.
Alors sur quoi est-ce que vous basez votre défense au cours de ce deuxième procès ?
Il me semblait qu'il y avait quand même des éléments du dossier qui pouvaient permettre de conforter cette thèse de la correction, qui est la thèse qu'elle donne depuis le début de sa première audition de garde à vue.
Voilà, qu'elle n'endosse pas plus que l'ordonnatrice d'une correction.
Voilà, il me semble que dans le dossier, et j'ai beaucoup accentué là-dessus en appel, il y avait quand même des éléments comme par exemple le prix de cette commandite, qui est quand même 10 000 francs. Je veux dire, 10 000 francs, c'est le prix d'une correction, c'est pas le prix d'une...
Ça fait 1 500 euros.
Voilà, tout à fait, c'est pas le prix d'un meurtre. Commandite d'un assassinat. Il y a eu ensuite des versements qui sont intervenus ultérieurement à la disparition de Claude Bichet, où il va y avoir une sorte de surenchère dans le coup. Et c'est vrai que Béatrice Hédouin va par la suite payer un peu plus. Elle va être carrément, ça sera ressort très bien des écoutes téléphoniques. Mais il n'y a pas de commandite d'assassinat à crédit non plus, ça n'existe pas.
Donc premier argument.
Il y avait ensuite, à mon avis, une absence de mobile. On n'a toujours pas déterminé quel aurait pu être le mobile de Béatrice Hédouin de vouloir éliminer Claude Bichet.
Le verdict est lequel, au final de ce deuxième procès?
Alors Béatrice Hédouin est condamnée à 14 ans de réclusion criminelle.
6 de moins.
6 de moins.
Ça change quoi?
Ça change beaucoup. 14 ans, ce n'est pas le prix à payer pour la commandite d'un assassinat. Je veux dire, 14 ans, on se rapproche quand même plus d'une correction qui a dégénéré.
La peine est moindre aussi pour Co. Hein.
Co est condamné à 15 ans de réclusion criminelle, alors qu'il avait eu 25 ans en première instance. Donc là aussi, on n'est plus dans le cadre, enfin, à mon sens, hein, au niveau de la peine en tout cas, il y a eu quand même un doute dans la tête des jurés pour descendre autant la peine.
Pierre Bichet, les verdicts successifs, les peines prononcées, vous ont-elles satisfaites?
Non, pas du tout.
Pour vous, elle avait une responsabilité supérieure ou pas à celle des bras armés?
Pour moi, elle avait une responsabilité plus que supérieure, parce que c'est elle qui commandite tout, c'est elle qui va chercher ces hommes-là pour faire ce coup-là. Pour moi, ils se sont fait avoir et elle a été maligne.
Comment avez-vous vécu les deux procès d'assises?
Tout le long du procès, on entend des choses, oui, c'est pas moi, c'est lui, c'est moi qui ai tiré, c'est pas moi qui ai tiré, moi j'étais là, non, j'étais pas là.
C'est-à-dire vous ne savez toujours pas ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé vraiment, il manque en fait une fin à l'histoire quand vous arrivez à la fin des procès.
Après 7 années d'enquête et 2 procès, on ne sait toujours pas pourquoi Béatrice a voulu tuer Claude. Et on ne sait toujours pas d'ailleurs qui a tiré.